explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
D'habitude, quand on voyage, on l'évite au maximum. Ces piqûres sont au mieux désagréables, au pire mortelles. S'il y a bien un insecte qui fait l'unanimité contre lui, c'est le moustique. Eric Orsena, lui, a décidé de partir à sa rencontre, de se rendre précisément là où il était le plus présent et où il faisait le plus de ravages. Il est allé en Guyane, au Cambodge, à Pékin, au Sénégal, au Brésil et jusque dans la mythique forêt Zika, en Ouganda. Mais quelle mouche a donc piqué notre académicien voyageur pour partir ainsi à la rencontre de ces petits insectes à l'insupportable bourdonnement strident. Il est allé leur demander leur point de vue sur la mondialisation. Voilà qui nécessite quelques explications. Ça tombe bien, Eric Orsena passe par notre bivouac aujourd'hui.
Que c'est beau. Si beau que ça n'a pas l'air vrai.
Sur France Inter...
Mais vous ne m'écoutez pas, hein ? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour Eric Orsena.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous. Votre dernier livre s'intitule « Géopolitique du moustique ». Il a paru chez Fayard. On va prendre le temps de découvrir votre enquête dans cette première heure. C'est en fait le quatrième tome d'une série de petits précis de mondialisation entamée il y a près de 10 ans maintenant. Avant les moustiques, vous vous êtes intéressé au coton, à l'eau et au papier. Et à chaque fois, vous vous êtes lancé dans de grandes enquêtes qui vous ont conduit à voyager aux quatre coins du monde. Il faut dire que vous êtes un grand voyageur, doté d'une insatiable curiosité. Chacun des thèmes de vos enquêtes, chacun de vos voyages pourrait faire l'objet d'une émission entière. Alors, puisqu'on vous tient, on ne vous lâche plus et on vous garde jusqu'à 18h si vous en êtes d'accord.
Bien sûr.
Eh bien, ce sera avec plaisir et on prendra le temps dans la deuxième heure de l'émission de découvrir les multiples facettes du voyageur que vous êtes. Mais pour l'heure, nous partons pour un tour du monde à la rencontre des moustiques. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Romain Imbertec et préparé par Hugo Struna.
Sa nourriture, c'est nous. Son moyen de transport, c'est nous. Ses mutations, c'est encore nous.
On a une menace réelle et avérée qui plane sur nos têtes. Il est ici, chez nous, installé.
Mais son pire ennemi, c'est aussi nous.
Quand il s'arrête sur un piège imprégné d'insecticides, il se contamine. C'est lui-même qui finit par disperser l'insecticide.
Eric Orsena, avec ce sujet, le moustique, c'est la première fois que vous mettiez au cœur de votre enquête un sujet aussi terrifiant.
Oui, parce que jusqu'à présent, je m'étais donc intéressé à la botanique avec le coton ou le textile, à l'eau, et c'est pas si loin que ça des moustiques, le papier, mais je m'étais pas intéressé à des êtres vivants. Et il se trouve que à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur et que j'ai dû quand même travailler un minimum pour comprendre un peu qui c'était ce grand savant Pasteur.
Vous avez écrit une biographie de Louis Pasteur.
J'ai écrit une biographie de Pasteur et donc l'Institut Pasteur a été intéressé par cette biographie qui était une biographie non pas de scientifique mais de vulgarisateur, de passionné. Et ils m'ont dit, est-ce que vous ne voudriez pas être notre ambassadeur ? Ambassadeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire raconter un peu ce que fait l'Institut Pasteur. Mmh. Et donc, on a réfléchi ensemble sur la meilleure façon de comprendre la mondialisation de la santé. Et on s'est dit, il y avait un personnage qu'il fallait mieux comprendre. Ce personnage, c'est le moustique qui va partout. Et en allant partout, il nous transmet soit des parasites, comme ceux du paludisme, soit des virus, comme ceux du chikungunya, de la dengue, ou du, vous voyez, de tout ce qu'on peut imaginer, ou du Zika.
C'est ça, c'est la mondialisation de la santé ou la mondialisation de la maladie, en tout cas, à en croire certains extraits de journaux.
Les tristes images de ces bébés atteints de malformations à la tête ont fait le tour du monde. Depuis plusieurs mois maintenant, l'Amérique du Sud et les Caraïbes se battent contre un ennemi redoutable. Il ne dépasse pas un centimètre. Le moustique tigre est déjà vecteur de la dengue et du chikungunya. Il menace aujourd'hui le monde entier avec le fameux virus Zika.
Le moustique tigre poursuit sa progression en France. Si les régions du sud de la France sont particulièrement touchées, le moustique a aussi élu domicile dans le nord de l'Hexagone. En Île-de-France, le département du Val-de-Marne est le premier à être placé en vigilance rouge.
À La Réunion, 20 000 nouveaux cas ont été recensés en une semaine sur l'île. Désormais, 10% de la population est touchée, un bilan qui inquiète. L'épidémie de chikungunya mobilise les autorités sanitaires.
Le paludisme touche près d'une centaine de pays. À elle seule, l'Afrique concentre 90% des cas de paludisme, loin devant l'Asie et le Proche et Moyen-Orient.
On a l'habitude de vivre avec la dengue, avec le chikungunya, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça.
Arrivé par les Alpes-Maritimes, il gagne année après année le nord de l'Hexagone. Selon les derniers chiffres, il aurait colonisé aujourd'hui 18 départements de la France métropolitaine.
Les Montpelliérains contaminés sont des adultes âgés entre 40 et 60 ans de la même famille. Tous ont déclaré mi-septembre les symptômes caractéristiques du chikungunya. Ce sont des cas dits autochtones, car ils n'ont pas voyagé dans une zone à risque.
Éric Orsenna, hein, cette accumulation montre à quel point voilà, cette menace pèse sur nous. On a l'impression de façon de plus en plus tangible, de façon de plus en plus présente. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, l'animal le plus dangereux pour l'homme sur Terre, c'est pas le requin, c'est pas le lion, c'est pas les crocodiles.
Non, on a fait le palmarès des plus dangereux. Alors, le requin, c'est 10 morts par an. Donc, c'est rien du tout.
Ouais.
L'hippopotame, c'est 500 morts par an. Donc, c'est déjà plus sérieux. Le crocodile, c'est 1000 morts par an. Le chien, c'est 25 000 à cause de la rage. Le serpent, c'est encore 50 000. L'être humain est responsable de 450 000 morts par an, en moyenne, hein, parce que quand il y a des guerres, on explose les compteurs, comme on dit. Et le moustique est responsable indirectement de 750 000 morts par an. Pourquoi indirectement? Parce que c'est pas lui qui va inoculer la maladie, mais c'est les parasites ou les virus qu'il transporte. Et comment ça se passe? Et là, il faut comprendre un peu ce que c'est qu'un moustique. Un moustique, il a deux trompes. La première trompe, c'est pour pomper le sang. Notre sang, à nous, les vertébrés. Et pourquoi il pompe le sang? D'abord, il faut savoir que ce sont que les dames moustiques qui pompent le sang. Pourquoi? Pas du tout parce qu'elles sont méchantes. C'est simplement parce qu'elles ont besoin des protéines qui sont dans ce sang pour que leurs œufs se développent. Donc ce sont des bonnes mamans, des méchantes piqueuses, mais des bonnes mamans. Et alors, pour bien pouvoir aspirer ce sang, elles ont besoin d'un anticoagulant. Et donc elles ont une deuxième trompe dans laquelle elles piquent juste à l'endroit où elles commencent à aspirer le sang. Elles les inoculent l'anticoagulant. Et l'anticoagulant, c'est quoi? C'est leur salive, il est dans leur salive. Et le problème, c'est que dans leur glande salivaire, c'est là où se sont réfugiés les parasites et les virus. Donc, si jamais il n'y a pas de parasites, eh bien, elles nous piquent, ce qui est désagréable. On peut avoir une petite cloque, mais on n'est pas malade. C'est pour ça qu'en France, il y a des virus tigres porteurs de ces saloperies qui sont le Zika, le chikungunya et la dengue, mais porteurs virtuellement. Et comme en France, les gens ne portent pas ces virus-là, eh bien, ils ne transmettent pas à d'autres. Vous voyez, c'est ça le principe. C'est-à-dire, quand on pompe le sang dans quelqu'un qui est contaminé, en aspirant le sang, eh bien, on aspire en même temps les parasites.
Ouais. Sauf que vous, dans votre grande enquête sur la géopolitique du moustique, vous êtes allé précisément là où se trouvent des moustiques qui transportent ces fameux virus et autres parasites, et pas des moindres. Donc vous êtes vraiment parti au cœur des foyers infectieux, on pourrait dire. Vous n'avez pas eu peur de vous jeter un peu dans la gueule du loup?
Si, bien sûr, j'ai eu peur, mais enfin, j'étais protégé, c'est-à-dire que j'avais des répulsifs vraiment en tartine.
Ouais.
J'avais des habits à manches longues, j'avais des chaussures un peu hautes, j'avais tout ce qu'on peut imaginer, j'avais des casquettes sur ma calvitie. Enfin, j'essayais de me protéger au maximum. Mais c'est vrai que quand vous allez dans la forêt Zika, vous avez un peu peur. Quand vous êtes en pleine forêt vierge, qui est la forêt magnifique, puisque c'est une partie de la forêt amazonienne, qui est la Guyane, que je recommande à tout le monde, c'est rien de plus beau que la Guyane, eh bien évidemment, vous dites, vous regardez le soir en disant, tiens, est-ce que j'ai été piqué? Et quand vous retournez au campement, évidemment, vous faites très attention d'avoir une moustiquaire imprégnée de répulsifs.
Et vous aviez évidemment fait tous les vaccins possibles et imaginables.
Ah oui, bien sûr. D'abord, alors, il y a des domaines dans lesquels il y a des vaccins, comme le vaccin de la fièvre jaune, qui est un vaccin formidable. Il y a aussi un vaccin sur la dengue qui est à peu près efficace, mais il n'y a pas de vaccin pour le paludisme. Et donc il y a des tas de recherches qui sont faites, et pour une raison assez claire, c'est que quand vous êtes attaqué par le paludisme, le corps ne garde pas en mémoire les anticorps qui ont été générés au moment de l'attaque. Donc c'est très compliqué, donc il faut passer par des leurres, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme ayant prouvé véritablement son efficacité. Donc vous voyez, pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait rien au monde de la nature, rien au monde de la vie, qui pensait que nous, êtres humains, avions le monopole de la vie, c'était absolument passionnant parce que je prenais des cours de tas de populations dont j'ignorais il y a 2 ans absolument rien. Et j'ai eu des professeurs formidables, il y a des professeurs inouïs, un très très grand professeur qui vient de prendre sa retraite, qui est François Rodin, qui est le spécialiste des insectes et des insectes porteurs de virus. Il est formidable. Et puis il y a une dame que j'aime énormément, qui a été ma grande professeure à l'Institut Pasteur, qui s'appelle Annabella Fayou, et elle dirige une ferme en deuxième et troisième sous-sol de l'Institut Pasteur, où elle élève des moustiques pour les contaminer et voir comment ça se passe. Une ferme à moustiques. Et voir ce qui se passe à l'intérieur du moustique quand ils ingèrent un virus ou un parasite.
Vous allez nous emmener à la rencontre de ces savants et aussi dans tous ces endroits où vous êtes allés, dont cette fameuse forêt Zika qui a donné son nom évidemment au virus. Elle se trouve en Ouganda, cette forêt Zika. C'est un des voyages que vous allez nous raconter dans cette émission. Tous à vos moustiquaires, Eric Orsena nous emmène avec lui sur la planète des moustiques, le temps d'un bivouac cet après-midi sur France Inter.
Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos immeubles de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au carrefour de la joie. Nordiste et sudiste, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à bout. Ladies sexy, les garçons chauds. La forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Faisons la fête. Samedi soir, à Bamako, sur ma moto. Samedi soir, à Bamako, sur ma moto.
C'était Bamako de Sangoy Blues sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Il y a 100 millions d'années, il y avait les moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui,
Il se nourrissait du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la sève.
Un extrait du film Jurassic Park, et comme en atteste ce film qui raconte quelques bêtises, mais là c'est vrai Eric Orsenna, ce que dit ce film, il y avait effectivement des moustiques au temps des dinosaures.
Et oui, parce que on a l'impression que nous, êtres humains, habitons la Terre depuis tout le temps. Alors on a des dernières nouvelles montrant que les êtres humains sont plus vieux qu'on ne pensait, mais enfin, le plus vieux des êtres, en gros, à peu près humains, c'est 7 millions d'années, avec Toumaï au Tchad. Alors que les moustiques remontent à 250 millions d'années et les insectes à 400 millions d'années. Donc, encore une fois, il ne faut pas se croire seul sur Terre.
Eh oui.
Seul sur Terre ayant ce monopole de cette formidable aventure qui est le monopole de la vie. Et j'avais découvert ça dans un premier temps quand, par les hasards de la vie administrative, je me suis retrouvé président de l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. Et j'ai vu les plantes. Les plantes aussi ont une vie. On sait bien, nous tous qui avons des jardins, que parfois, quand on met deux plantes à côté l'une de l'autre, elles se détestent et l'une des deux meurt. On se rend compte qu'il y a des endroits, que des terres qu'elles n'aiment pas, etc., etc. Donc, c'est vivant. Les plantes connaissent des amours, les plantes connaissent des voyages. Voilà, donc, notre planète est une planète d'associés entre vivants, chacun ayant son objectif. Et les dames moustiques, elles ont un objectif très clair, c'est-à-dire que leurs œufs se développent, qu'elles se reproduisent. Et c'est pour ça qu'elles nous pompent notre sang.
Et entre parenthèses, avec une capacité de résilience et de faire face à l'imprévu, ces moustiques qui forcent le respect. Parce que ça veut dire que contrairement aux dinosaures, eux, lors des crises d'extinction massive, ils ont survécu. Donc ils sont particulièrement bien adaptés.
Alors, pourquoi j'ai réfléchi à cette question. Parce qu'au lieu de... Enfin, quand un moustique attaque, je suis furieux, ça gâche ma nuit, j'essaye de le taper, tout ce qu'on peut imaginer, notamment avec ces systèmes formidables, vous savez, c'est des petites raquettes électriques, comme ça, vous, vous faites votre petit Nadal, comme ça, puis ça grésille, et alors, schlac, et comme ça, c'est un peu arrêté. Donc, mais j'ai essayé de savoir, au fond, ce qu'il racontait. Et alors, c'est intéressant, parce que ces moustiques, ils vivent très peu de temps, puisqu'ils vivent, le mâle vit une dizaine de jours, et puis la femelle un peu plus d'un mois, un mois et demi. Et donc, ça veut dire que chaque année, ils ont 7 ou 8 générations.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en un siècle, ils ont 800 générations. Alors que nous, êtres humains, nous avons 4 générations. Donc, ils s'adaptent évidemment, puisque les plus résistants eh bien, continuent à vivre, les autres disparaissent, et donc il y a des sortes de sélections naturelles qui s'opèrent. Et donc, c'est pour ça que quand on leur balance des insecticides, il ne faut pas croire que ça a marché toujours, parce qu'au bout d'un moment, ils vont résister. Exactement comme font les bactéries quand on leur balance des antibiotiques. Au bout d'un moment, ils résistent, parce que leur but, c'est de résister.
Le secret de cette évolution, c'est qu'en fait, ils évoluent beaucoup plus vite que nous, du fait de ces générations bien plus rapprochées.
Et alors, au fond, ils nous donnent des leçons, puisque c'est quand même pas mal réussi de vivre 250 millions d'années.
Ouais,
on ne sait
pas
si notre espèce humaine va résister 250 millions d'années, surtout s'ils écoutent les folies du président américain. Et donc, je me suis demandé, au fond, pourquoi ils résistent si bien. Alors, il y a des réponses assez intéressantes. C'est que, d'abord, ils sont tout petits, c'est-à-dire qu'ils consomment très peu d'énergie, à la différence de nous. Ils bouffent n'importe quoi, à la différence de nous. Ils peuvent loger n'importe où. Et puis, donc, ils s'adaptent sans arrêt. Et donc, acceptant de vivre très peu de temps, au fond, ils privilégient l'espèce par rapport à l'individu. C'est-à-dire que, point par point, ils font l'inverse de nous. Donc, c'est intéressant quand même que ce que vous racontent ceux qui ont aussi droit de vivre.
Vous voyez, ils n'ont pas choisi les mêmes méthodes pour survivre.
Non, les mêmes méthodes. Et vous voyez, au fond, c'est le temps d'un bivouac, c'est le temps d'un bivouac au cœur même de la vie.
Vous êtes toujours guidé par cette curiosité, hein, c'est vraiment votre moteur, même au détour d'une page, vous dites « je suis atteint du virus de la curiosité, je me nourris de ma planète pour essayer d'étancher cette curiosité ». Et vous arrivez quand même si le sujet n'est pas des plus réjouissants, hein, parce qu'on l'a dit, il y a évidemment des maladies,
bien
des
sûr.
Morts, et pourtant vous arrivez à vous enthousiasmer pour cette petite bête, qui est même que vous trouvez belle finalement, cette bestiole.
C'est très joli, un moustique. quand elle vous a pas piqué ou quand vous la capturez, c'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est magnifique avec des jambes extrêmement graciles, avec un corps extrêmement élégant, avec des antennes, parfois avec des sortes de plumes sur les antennes. Enfin, c'est une bête tout à fait magnifique et insupportable. Hein. Je suis pas un maso, moi. Je suis pas un maso, elles m'ont pourri je ne sais combien de nuits et puis causé des grandes peurs.
Mais puisque la parole est à la défense, continuons dans ce registre. Il y a une utilité du moustique aussi. Il nous rend des services.
Alors, bien sûr, il rend des services comme toute chose sur Terre. C'est-à-dire que le moustique a deux périodes dans sa vie. La première période est aquatique. Ça dure en gros une grande semaine, c'est-à-dire que c'est une larve. Alors, étant larve, elle sert à nourrir les poissons, qui adorent ces larves. Et puis, les poissons, mais pas seulement les poissons, c'est-à-dire les grenouilles, tout ce qu'on peut imaginer, toutes ces petites bêtes qui vivent dans l'eau. Et puis, elle dépollue l'eau, puisqu'elle bouffe les petites particules. Donc ça, c'est la première partie de leur vie. Dans la deuxième partie de leur vie, quand elles deviennent nymphes, et puis qu'elles deviennent vraiment moustiques, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elles passent de la phase aquatique à la phase aérienne, à ce moment-là, elles sont bouffées par les oiseaux, qui adorent ça, et les moustiques ont aussi une capacité de polliniser. C'est-à-dire que les abeilles n'ont pas le monopole de la pollinisation. Donc vous voyez, il y a toute une chaîne comme ça d'utilité. Donc si vous supprimez les moustiques, bah, des tas d'animaux ne vont plus avoir à bouffer.
C'est un maillon non négligeable de l'écosystème.
C'est un maillon non négligeable de l'écosystème. Donc il faut bien se dire que quand on supprime, parce que des tas de gens disent, écoutez, ça cause tellement de morts, notamment chez les enfants, on va tous les éradiquer. C'est pas forcément la bonne méthode, mais les contrôler et protéger ceux qui sont les plus fragiles, évidemment, il faut le faire.
Alors vous avez appris, évidemment, vous le disiez, énormément de choses sur ces petits insectes. Depuis le début, on parle des moustiques comme s'il y avait une seule espèce de moustique. En fait, ils sont très nombreux avec leurs spécificités. Ils nous piquent pas tous, d'ailleurs.
Bien sûr.
Combien il y a de moustiques ?
Alors, en gros, à ce jour, parce qu'on en trouve sans arrêt des nouvelles, on pense, 3564 espèces de moustiques.
Ah, vous êtes à jour de vos chiffres ?
Oui, à peu près. Alors, peut-être il y en a 5 qu'on a trouvées encore en Guyane ou un peu partout dans le monde, mais enfin, disons un peu plus de 3500. Sur les 3500, il y en a 300 qui sont porteurs de ces parasites. Parce qu'on parle de moustiques qui sont compétents ou non.
Ouais.
Compétents, c'est-à-dire qui peuvent accueillir en eux des parasites. Alors, c'est intéressant parce que accueillir des parasites, c'est comme si nous, on accueillait des bactéries sans tomber malade. Et donc, il y a un animal dont je rêve de raconter l'histoire, c'est les chauves-souris. Parce que les chauves-souris aussi sont des porteuses d'incroyables saloperies de virus. Donc, ça veut dire que ces chauves-souris ont en elles-mêmes des capacités de résistance immunologique à toutes ces petites bêtes. Mmh. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, quand on essaye de voir un peu comment ça marche, c'est qu'à l'intérieur du moustique, le parasite circule. D'abord, il s'installe un peu dans l'estomac, puis dans l'estomac, il ne trouve pas ça agréable parce qu'il y a des sucs qui sont un peu acides. Donc, il décide d'aller ailleurs, de passer les parois, et puis c'est comme ça qu'il se réfugie dans les glandes salivaires, et c'est notre drame. Où il peut aller vers les œufs, et comme ça, il y a une transmission aussi du parasite par les œufs.
Tout ça, vous l'avez appris, évidemment, grâce aux entomologistes. Il y en a toute une série que vous rencontrez dans votre livre. Et vous allez les rencontrer loin. Il y en a certains que... Alors, ça fait rêver, ils vous racontent la vie des moustiques sur le bord du fleuve Mékong.
Évidemment, il y en a un très, très grand qui est Digné Fontenay, qui est le patron de l'Institut Pasteur à Phnom Penh. C'était formidable et inquiétant, parce qu'on a été reçus à dîner chez lui... Le soir tombait, c'était très beau, on était sur le bord du Mékong, il y avait des pêcheurs qui passaient, qui allumaient leurs loupiottes, il y avait les enfants qui se baignaient, il y avait des gens qui jouaient au ballon, et puis on entendait des chants, des bonzes, parce que la pagode était pas loin, et puis moi je voulais rentrer, et puis j'osais pas, et puis les moustiques commençaient à attaquer, et puis enfin on est rentré, et lui il nous disait non on risque rien, et en fait un mois après j'ai appris qu'il a eu une dengue extrêmement sévère. Donc, il y a des moments...
Rétrospectivement, voilà. Rétrospectivement, faut pas rester trop longtemps.
Non, faut pas trop rester trop longtemps, mais c'était évidemment magnifique. Donc lui, il est exceptionnel. Il y en a un autre qui est très fort, qui se trouve à Montpellier. C'est vrai que Montpellier est une des capitales de la science depuis toujours, depuis Rabelais. Rabelais a fait ses études de médecine à Montpellier. Et donc Frédéric Simiard, qui travaille pour l'Institut de Recherche et de Développement, est quelqu'un de formidable. Eh bien, c'est lui qui a été aussi mon professeur. Donc, à chaque fois, ils essayent de voir comment ça fonctionne. Comment, à l'intérieur du moustique, alors avec des microscopes, etc., comment circule le parasite ou le virus. Et comment expliquer les capacités du moustique à résister à ces envahisseurs.
Ouais. Avec ce ménage à trois, comme vous dites, ce couple à trois, il y a le moustique, il y a le parasite, il y a sa proie, et tout commence au cœur des forêts profondes. C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant, dans la suite de ce temps d'un bivouac, en compagnie d'Éric Orsenna sur France Inter. Man, Mac DeMarco sur France Inter, le temps d'un bivouac.
La forêt Zika, un endroit paisible tout proche d'Entebbe sur le lac Victoria. C'est ici qu'il y a 70 ans, les scientifiques ont découvert un virus inconnu dans une population de singes. Ils l'ont baptisé du nom de cette forêt. Si peu de cas sont enregistrés en Ouganda, c'est peut-être parce que peu de gens sont testés ou présument qu'il s'agit de paludisme.
Un extrait d'un reportage diffusé sur BBC Afrique en 2016. Alors c'est un moment fort de votre voyage, Éric Orsenna, que vous racontez dans votre livre « Géopolitique du moustique » paru aux éditions Fayard. Ce passage dans cette forêt Zika que vous évoquiez dès le début de l'émission, qui a donné le nom à ce fameux virus. Ça veut dire quoi, Zika, normalement ?
Zika, d'après mes souvenirs, Zika, c'est qui croit vite, qui se développe à toute vitesse.
C'est-à-dire, voilà,
c'est exactement ce que ça donne, c'est-à-dire la capacité de multiplication du virus à l'intérieur du moustique. Parce qu'encore une fois, le moustique n'est pas une seringue. Le moustique est un être vivant et il accueille un autre être vivant. Donc entre les deux êtres vivants, il y a une sorte d'interaction. Alors, Zika, c'est une forêt très belle.
Vous semblez un peu déçu en arrivant, vous la trouvez un peu petite.
Non, parce qu'elle était petite, c'est pas du tout une forêt sauvage comme en Guyane. Ouais. Elle est entre la capitale Kampala et puis Entebbe, vous savez, sauter sur Entebbe quand il y a eu le raid israélien, donc sur le bord de la Victoria. Donc elle est très pratique parce qu'elle est entre deux villes importantes. Elle n'est pas très grande, mais elle est située à un endroit climatique qui permet de développer énormément de virus. Ce qui fait que quand vous entrez dans la forêt, d'abord vous voyez que la forêt est gagnée par l'urbanisation.
Donc il y a des gens qui vont habiter juste à côté de ces réservoirs à virus.
Donc évidemment, ils vont se faire piquer. Et alors, comme il y a la corruption, donc on donne des permis de construire, alors qu'on ne devrait pas donner des permis de construire. Et puis cette forêt qui sert aux chercheurs depuis 1930. C'était la Fondation Rockefeller qui s'était installée là et qui voulait savoir un peu comment fonctionnaient les moustiques. Et donc, ce qui est très émouvant dans cette forêt, c'est que, par exemple, vous avez des grandes tourelles de ferraille dans lesquelles vous avez des cobayes qui sont soit des singes enfermés dans des cages, soit des chercheurs avec des bras nus et qui ont des petites sortes d'éprouvettes. Et puis, quand il y a un moustique qui s'approche de leur peau, hop, ils le capturent et comme ça, ils voient s'il est infecté ou pas infecté.
On vous a proposé de le faire, vous n'avez pas accepté ça quand même.
Il n'y a pas question parce que je n'étais pas sûr d'avoir les réflexes assez rapides. Évidemment. Et puis, je n'avais pas envie de prendre le risque d'être infecté parce qu'on peut vraiment prendre des saloperies. Donc, c'est intéressant. Pourquoi ces tourelles qui vont jusqu'à quand même 50 mètres de haut. Et donc, parce que y a des moustiques qui sont spécialisés à une certaine altitude et d'autres à une autre altitude et puis d'autres presque au niveau du sol. Donc il y a toute une sorte de cartographie de ces moustiques et d'autres insectes qui sont là. Donc, et puis on fait des tas d'analyses de sang de tous les animaux qui vont être piqués, et notamment les singes.
C'est un endroit assez étonnant, hein, cet endroit où on se dit que potentiellement, il y a là tous les réservoirs, ce qu'on appelle ces espèces réservoirs à virus qui nous menacent. Il y a quelque chose de très inquiétant.
Alors dans les autres bêtes comme les singes, on sait que... Le virus du sida a commencé par les singes, donc ils vivent là, en fait, en bonne intelligence. Et quand ils passent d'une espèce à une autre espèce, la nouvelle espèce qui accueille le parasite, le virus, n'a pas ces défenses-là. Donc devient très vite malade, et puis elle peut contaminer très vite. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on défriche, plus on entre dans des territoires où existaient ces animaux avec des cycles rodés depuis des dizaines de millions d'années.
En bonne entente.
En bonne entente, sans s'agresser les uns les autres parce qu'ils s'étaient habitués par des mutations. Puis, brutalement, on défriche. Donc on installe une maison, on installe un jardin et on est dans des endroits où il y a ces animaux-là. Et ces animaux-là, ils résistent et puis ils peuvent transmettre. Et alors... Ce qui est intéressant, j'ai travaillé avec des épidémiologistes, c'est-à-dire des gens qui regardent comment les maladies émergent. Et alors, il y a des tas d'exemples qui sont assez terrifiants, c'est-à-dire, par exemple, en Corée. Mais c'était exactement la même chose un peu plus tard en Argentine. Vous défrichez pour étendre vos cultures. En défrichant, vous allez dans le domaine où il y avait des rongeurs. Les rongeurs, ils avaient l'habitude, comme les chauves-souris, de vivre en très bonne intelligence avec des virus. Donc, comment vous faites pour défricher? Vous avez des grandes machines qui broient tout, et puis envoient en l'air, dans l'atmosphère, des morceaux de ces rongeurs, et aussi des morceaux de virus, que vous inhalez quand vous respirez. Et donc, vous êtes vous-même contaminé, et si le rongeur acceptait cette cohabitation, vous non, et vous êtes malade. Et vous avez comme ça une sorte d'explosion de maladies qui sont liées au fait que nous avons envahi leur domaine.
C'est le cas, on le retrouve aussi, vous êtes allé dans la forêt amazonienne, en Guyane, et vous expliquez, alors à chaque fois il y a des petits détours, hein, parce qu'on apprend toujours plein de choses, un peu par la bande, par des petites digressions qui sont toujours savoureuses, et vous dites tout le mal que vous pensez de l'or, qui est à l'origine de nombreux conflits et de bien des problèmes, et vous dites que les orpailleurs sont des formidables réservoirs à moustiques, du fait d'être dans la clandestinité, ceux qui défrichent la forêt amazonienne et qui la polluent à grands coups de mercure, en plus, sont des formidables réservoirs à moustiques.
Et oui, parce que ils sont là employés par des gangsters de grande envergure. Et eux, ils sont employés, c'est des pauvres gens qui sont soit du Suriname, soit du Brésil. Donc ils se retrouvent dans la forêt et évidemment, ils sont piqués. Alors on leur donne des médicaments tant bien que mal. Mais les médicaments, en général, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur traitement. Donc ça veut dire que les moustiques ou les parasites apprennent à résister. Donc on crée des résistances exactement comme ce qui se passe avec les antibiotiques quand on interrompt trop tôt le traitement. Et puis, comme ils sont illégaux, ils ne veulent pas se faire arrêter. Donc ils ne sont pas traités. Donc ils ne sont pas traités, bah, ils développent des parasites. Quand vous vous faites traiter, bah, vous n'avez plus de virus du chikungunya, de la dengue, vous n'avez plus non plus de parasites du paludisme. Mais quand vous n'êtes pas soigné, oui. Donc à chaque fois qu'un moustique pique un orpailleur, et puis va se balader ailleurs pour piquer quelqu'un d'autre, il transmet le parasite qu'il a recueilli chez l'orpailleur, et le transmet à l'autre. Donc c'est des très pauvres gens, mais c'est une catastrophe, à la fois pour la nature et pour les êtres humains.
Et alors nous dans les pays tempérés, parce que là, finalement, on peut se rassurer comme on peut, mais globalement, c'est relativement loin de nous, ce que vous racontez, en tout cas pour ceux qui sont en France métropolitaine. Mais dans les zones tempérées, est-ce qu'on est menacé?
Alors, on est menacé parce qu'un certain nombre d'espèces de moustiques peuvent porter un certain nombre de parasites. Donc ils sont, comme ce qu'on dit, compétents. Donc, bon, tant qu'il n'y a pas de parasites, ils nous piquent, ils sont compétents, mais virtuellement. C'est-à-dire, ils n'ont aucune bête malfaisante en eux. Ils pompent notre sang, c'est tout. Mais si jamais il y a une épidémie, quelqu'un qui vient en avion et qui arrive de La Réunion avec le chikungunya ou qui vient du Cambodge avec la dengue, bah, le moustique qui se trouve en Camargue, il va piquer ce voyageur et puis il va le repiquer à quelqu'un d'autre, de transmettre et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autant plus, comme on a dit précédemment, que le moustique sert de réservoir. Donc vous avez une multiplication des virus et de sa virulence. Et donc évidemment, ça peut se passer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous prenez l'exemple de la Camargue ou toute la côte méditerranéenne, depuis la frontière espagnole jusqu'à Marseille, jusqu'à une date assez récente, c'est-à-dire les années 60, était infesté de moustiques, mais infesté de moustiques avec des gens très malades, parce qu'on ne les traitait pas.
Vous reproduisez un texte d'Alphonse Daudet qui décrit la Camargue avec, effectivement, on
du
se croirait...
Du paludisme. Ouais. Mais vous savez, comme on disait, il y a eu du paludisme pendant longtemps, il y a eu du paludisme à Rome, il y a eu... Tout le delta du Pô était infesté de fièvre, de miasme, comme on disait, de malaria. Malaria, c'est le mauvais air, parce qu'on pensait que c'était dans l'air. Hein, on ne pensait pas que c'était les moustiques, on pensait que c'était dans l'air. Et donc, malaria, et le mauvais air. Et donc, ça a existé pendant ces moments-là. Et puis, finalement, on a appris à les contrôler, à débarrasser. Au fond, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit, parce que les moustiques circulent assez peu. Leurs œufs peuvent circuler beaucoup, mais les moustiques eux-mêmes ne circulent pas plus de 300 ou 400 mètres. Donc, si dans votre jardin, vous supprimez tous les lieux où les larves peuvent se développer, c'est-à-dire vous nettoyez votre piscine, vous n'avez pas des petites coupelles pleines d'eau, vous n'avez pas des canettes de bière, vous n'avez pas des jouets avec des petites flaques d'eau, etc., etc., ben vous n'aurez pas de larves, donc vous n'aurez pas de moustiques.
Alors, vous avez aussi rencontré des personnes qui tentent d'endiguer les maladies provoquées par ces moustiques. Il y en a une d'entre elles, pas des moindres, Tu Youyou. C'est une scientifique chinoise de 84 ans qui a reçu le prix Nobel de médecine 2015 pour avoir créé un médicament antipaludéen, l'artémisinine. C'est une vraie récompense pour son travail, ce prix Nobel, ce qui n'empêche pas d'avoir quelques inquiétudes pour l'avenir.
Cette récompense est un honneur pour l'équipe scientifique chinoise et un signe d'approbation pour la recherche médicale chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est un grand trésor. Nous pouvons combiner les technologies médicales occidentales et chinoises pour trouver de nouveaux potentiels pour la médecine. J'espère que nous pourrons travailler tous ensemble dans le cadre du plan de l'OMS. Une fois que le paludisme sera devenu plus résistant aux médicaments que nous utilisons à présent, il ne sera pas aisé de mettre au point un nouveau type de médicament au cours des 10 prochaines années. Si cela arrivait, le paludisme déclencherait une épidémie.
Un reportage diffusé sur la chaîne CGTN en 2015, Eric Orsena, c'est intéressant. Il y a deux notions sur lesquelles je voudrais vous faire réagir. Il y a d'abord cette idée que quand on voyage, on rencontre peut-être des problèmes, mais on rencontre aussi des solutions. Et là, en l'occurrence, en faisant appel à la médecine traditionnelle, on a trouvé un puissant anti-paludéen. Il y a une leçon à retenir derrière tout ça aussi.
Tout à fait. Alors, c'est une histoire qui est une histoire formidable, qui a souvent d'ailleurs été constatée. C'est que dans les années 60, pour survivre, alors que se multipliaient les déluges de bombes lancées par les Américains sur le Vietnam, l'armée Viet Minh s'est enterrée. C'est-à-dire qu'ils ont creusé un réseau incroyable de galeries souterraines et ils se sont réfugiés là. Donc ils pouvaient supporter les déluges de bombes qui s'abattaient sur le pays. Sauf que ces galeries était extrêmement humide, évidemment, puisqu'on est dans le monde tropical. Et que donc, c'était formidable pour les moustiques. Et les moustiques qui adoraient ça, puisqu'ils avaient à domicile les repas de sang dont ils ont besoin.
Oui.
Donc, ils étaient malades comme des chiens. Donc, ils mouraient en masse, pas du tout à cause des bombes américaines, mais à cause des maladies apportées par les moustiques, principalement les paludismes. Alors, le président du Vietnam, Ho Chi Minh, demande à son allié Mao de l'aide. Qu'est-ce que fait Mao? Il lance une très grande campagne secrète pour répertorier les pharmacopées traditionnelles de la Chine. Et on découvre qu'une plante est connue depuis quasiment Jésus-Christ pour faire baisser la fièvre et permettre de soigner contre les fièvres, donc contre le paludisme. Donc on prend cette plante qui est une artémisia, qui est de la famille de l'ambroisie, et donc on l'utilise et des milliers de soldats Viet Minh ont été ainsi soignés et sauvés. Mais il fallait trouver le principe actif de cette plante pour essayer qu'elle soit efficace tout le temps et de façon homogène. Et ça, ça a été le travail formidable de Madame Yu Youtu. Donc vous voyez, elle a au fond, c'était déjà connu, on l'a retrouvé, et à partir de là, on est passé à la chimie traditionnelle.
Ouais.
Et c'est ça le travail. Et alors, ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, et ce qu'elle m'a dit quand j'ai été la voir, parce que j'étais deux fois dans son laboratoire, là, et ce qu'elle dit, c'est que nous avons en Asie des résistances à la plupart des médicaments qui sont utilisés pour lutter contre le paludisme, alors que pour l'instant, il y a moins de résistance en Afrique.
Ouais.
Mais il y a beaucoup moins de cas en Asie qu'en Afrique.
On voit un peu le scénario catastrophe. Si les résistances vont là où il y a beaucoup de cas, ça peut être une bombe à retardement, là encore.
Et alors, cette artémisinine, donc c'est le remède central de lutte contre notamment le paludisme, mais en même temps, il faut l'articuler avec d'autres drogues pour venir à bout complètement de cette saloperie.
Ouais. Alors, certains voudraient se lancer dans une guerre sans merci contre les moustiques, une lutte à mort à grand renfort de biotechnologie. Mais est-ce vraiment la solution? Vous allez nous donner votre avis dans un instant, dans le temps d'un bivouac, Eric Orsena.
Non mais moleste les mosquitos. Non mais moleste les mosquitos. Non mais moleste les mosquitos. Why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home?
C'était le très opportun The Mosquito dans le temps d'un bivouac par The Doors sur France Inter.
Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Oui, oui. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là.
Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Super Timor. Le temps de sentir l'odeur Super Timor. Les insectes sont déjà morts.
Super Timor. Super Timor avec sa nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort.
Super Timor. Super Timor.
Le numéro 1.
Une publicité diffusée en Côte d'Ivoire en 1984 pour un super Timor, un insecticide censé régler le problème des moustiques. Eric Orsena, vous qui y êtes allé dans ces pays où les moustiques posent des difficultés, sont porteurs de maladies, comment on s'en protège intelligemment de ces moustiques?
Alors, le plus intelligemment et le plus simplement, c'est donc de se badigeonner de répulsifs. Parce qu'il y en a de très bonnes marques et donc les moustiques détestent ça. Parce qu'ils sont attirés par le CO2, ils sont attirés par l'odeur. Donc quand ils voient ces odeurs, hop, ils s'écartent et ne viennent pas. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est un certain nombre de moustiques, dont les anopheles qui nous transmettent le paludisme, piquent principalement la nuit. Donc il faut se protéger la nuit, parce que c'est là qu'ils piquent. Et donc il faut utiliser les moustiquaires. Mais les moustiquaires imprégnés. Parce que si vous n'imprégnez pas de répulsif votre moustiquaire, le moustique, il attend tranquillement, attiré par votre odeur, le CO2 que vous dégagez, il attend tranquillement que vous leviez et il vous pique. Donc plus vous vous levez fréquemment, plus vous avez de chances d'être piqué. Mais une action très convaincue et de grande ampleur des moustiquaires permet de diminuer de façon très très rapide les morts de moustiques. On a divisé en 5 ans, on a divisé par 2 le nombre de morts par moustique, et principalement les enfants, les femmes enceintes et tout ça. Donc on peut déjà diminuer énormément le nombre de morts grâce aux moustiquaires. Ouais. Parce que des tas de gens utilisaient les moustiquaires, ne savaient pas comment utiliser les moustiquaires. Ouais. C'est-à-dire, ils les laissaient ouvertes, ou alors ils les utilisaient comme filet de pêche.
Oui. Donc, vous voyez, c'est là, pas dans ce cas-là, ça sert à rien.
Ça sert à attraper des poissons, mais pas du tout à attraper les moustiques. C'est pas fait pour ça.
Mais alors, est-il envisageable, parce que là, c'est une façon de les tenir à distance, est-il envisageable d'éradiquer, c'est aussi une solution qui est parfois envisagée, d'éradiquer des espèces de moustiques, en tout cas celles qui posent problème. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaitable?
Alors, c'est envisageable de différentes manières, parce que vous savez que il y a ce qu'on appelle les manipulations génétiques, ou en allant un peu plus précis, les ciseaux moléculaires. C'est-à-dire que maintenant, il y a des techniques extrêmement simples où vous pouvez supprimer dans un génome un gène qui cause des maladies ou un gène dont vous ne voulez pas et le remplacer par un autre. Vous pouvez très bien, par exemple, instiller dans une suite de gènes le gène de l'infertilité. C'est-à-dire, le moustique n'aura pas de descendance. Et si vous couplez ça avec un autre système qui est lié à ce travail avec une enzyme CRISPR-Cas9, j'entre pas dans les détails, mais si vous couplez ça avec ce qu'on appelle le forçage génétique, c'est-à-dire de bousculer et d'accélérer les lois de la transmission, dites les lois de Mendel, à ce moment-là, vous pouvez transmettre très très vite à presque toute une population de moustiques, le gène de l'infertilité. À ce moment-là, vous n'avez plus de moustiques. Et là, vous avez des tas d'autres techniques qu'on peut imaginer, parce que tout le monde cherche, évidemment.
Alors, sur cette idée de moustiques transgéniques, évidemment, c'est une solution envisagée et déjà testée. Sur le terrain, ça donne lieu à des drôles de scènes. Nous sommes au Brésil.
Ce matin-là, la petite ville de Jacobina est en effervescence. Les habitants attendent avec impatience ce qu'il y a dans ces boîtes. Des moustiques, pourtant leurs ennemis au quotidien, mais aujourd'hui peut-être, pour eux, une solution d'avenir. À quelques rues de là, un camion patrouille. Ses haut-parleurs vantent en musique les bienfaits de l'insecte transgénique. C'est la fête du moustique, Marco inonde le quartier.
Je relâche les mâles transgéniques qui vont combattre la dengue ici à Jacobina. Le vent va les disperser dans toutes les directions, comme vous pouvez voir. Il y en a beaucoup, mais ils ne piquent pas.
Un reportage de France 24, daté de 2013. C'est-à-dire que ce lâcher de moustiques lors de la fête du moustique a eu lieu déjà il y a 4 ans. Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats de ces initiatives, Eric
Orsena ? Oui, il y a des résultats, parce que ça n'a pas commencé avec les moustiques, ce système. On appelle ça le système du mâle stérile. C'est-à-dire, vous stérilisez les mâles et vous les lâchez, c'est-à-dire pour toutes sortes de méthodes, notamment avec des rayons ou les irradier, et donc ils sont stériles. Et puis, vous les lâchez dans la nature. Donc, les mâles stériles rencontrent des dames sauvages, ils s'accouplent et il n'y a pas d'enfants. Donc, il n'y a pas de succession.
Est-ce que ça marche vraiment?
On a fait ça. Alors, ça marche vraiment, bien sûr, ça marche vraiment. Et il y a eu ça avec différentes mouches, notamment des mouches qui causaient des dégâts terribles sur les troupeaux. Donc, il y a eu ça en Amérique latine, il y a eu ça en Libye, il y a eu ça partout. Donc, ça marche assez bien. Donc, simplement, il faut une masse énorme de mâles stériles parce que les dames sauvages préfèrent les mâles pas stériles.
Ah voilà.
C'est-à-dire ils sont un peu abîmés quand même. Et les mâles, voilà, et elles préfèrent les vrais mâles, quoi. Ah. Les bad boys, quoi. Elles préfèrent un peu ça, comme ça. Donc voilà, ça marche moyen. Mais enfin, ça peut marcher quand même. Et ça peut marcher quand même dans des domaines qui sont des domaines relativement restreints, comme les îles, les choses comme ça. Donc ça peut marcher, et franchement, pourquoi pas?
Vous voyez, pourquoi pas? Pourtant,
oui, pour
ça.
Mais pour ce point-là, pourquoi D'accord. pas? Parce que l'autre idée, c'est de dire, on va complètement éradiquer les moustiques. Et utiliser le deuxième temps, c'est-à-dire le forçage génétique. C'est-à-dire jouer en même temps sur les manipulations génétiques et sur la transmission génétique elle-même. C'est-à-dire en accélérant la transmission. Et là, j'ai discuté avec beaucoup de scientifiques, parce que moi, j'avais pas ces capacités de trancher. Et la très grande majorité d'entre eux m'ont dit, attention, contrôler, oui, éradiquer, non. Pour toutes sortes de raisons. On l'a vu précédemment, les moustiques servent. Ils nourrissent un certain nombre d'animaux. Donc, vous pouvez très bien imaginer que si vous n'avez plus de moustiques, il va y avoir des famines, premièrement. Deuxièmement, la nature a horreur du vide. Et donc, si les parasites et les virus n'ont plus ces porteurs, ils vont trouver d'autres animaux. Et peut-être avec des interactions qu'on ne connaît pas. Troisièmement, on sait bien, avec les maladies génétiques qui, hélas, nous frappent et fera un certain nombre de familles, que la transmission des gènes n'est pas toujours parfaite. Il y a des bugs, souvent. Et c'est comme ça que ça donne des maladies dites des maladies génétiques, on voit bien. Et donc, quand vous avez des bugs, vous pouvez créer des monstres. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces monstres? Comment vous allez faire? Comment vous allez? Et puis, vous pouvez plus revenir en arrière après, une fois qu'ils sont là. Donc, vous voyez, donc, l'idée de qui est généralement admise, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de débats sur ces questions-là. Et la communauté scientifique est en grande majorité sur cette ligne-là.
Ouais. Que le remède pourrait être pire que le mal, donc attention.
Voilà. Donc évidemment, empêcher les gîtes larvaires, là où vivent les larves. Évidemment, dans certains endroits précis, utiliser le système du mâle stérile. Mais à très grande échelle, avoir comme objectif ce qui est presque possible de se débarrasser complètement des moustiques, là, c'est sans doute jouer à l'apprenti sorcier.
Combien de temps vous a pris la longue enquête que vous avez réalisée sur ce moustique? On n'imaginait pas qu'il y ait autant de choses à apprendre, à voir, à comprendre sur ce petit insecte qui nous parle, comme vous le dites très bien, de l'abolition des frontières, de la mondialisation de nos sociétés. Combien de temps pour cette enquête?
Alors, presque 3 ans. Ouais. Parce que à chaque fois, je pars en connaissant rien du tout. Et puis j'apprends, et j'ai cette chance formidable d'avoir les meilleurs professeurs, puisque oui. Comme il y a l'Institut Pasteur, et puis j'ai des liens très très anciens avec ce formidable institut de recherche, qui est l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et donc et puis dans le monde entier, donc je peux aller partout, vous voyez, c'est mon luxe total par rapport à un journaliste de base, c'est que j'ai le temps. Comme les livres se marchent, les voyages sont financés par l'éditeur. Et puis, je peux rencontrer maintenant à peu près qui je veux. Donc, quand j'étais petit, je me rêvais reporter. Maintenant, je suis reporter.
Eh oui, on va en parler dans la deuxième heure. Votre livre s'intitule « La géopolitique du moustique » aux éditions Fayard. Et ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas fini de voyager pour vos reportages. Vous êtes un nomade en perpétuel mouvement, Eric Orsena, avec un attachement tout particulier, on va le voir, à l'Afrique. Un goût pour la navigation aussi. Vous êtes allé jusqu'en Antarctique avec Isabelle Autissier. Nous allons revenir avec vous sur toutes ces aventures dans la deuxième heure du temps d'un bivouac. Vous êtes d'accord pour rester?
Bien sûr.
Eh ben, ça m'arrange.